De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Le Devoir a sorti toute une histoire, oui, cette semaine. Ils ont révélé que la pandémie de COVID-19 avait été assez payante pour le privé en santé. Ils ont obtenu une douzaine de contrats conclus entre des cliniques privées et des CIUSSS. Et, écoutez, ça a provoqué vraiment toute une réaction de la part de l'opposition. On trouve ça odieux, inacceptable et incompréhensible. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, qui est chroniqueur, animateur, auteur, commentateur et ex-chef du PQ. Jean-François, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Alors, explique-nous un peu cette histoire-là du Devoir, une augmentation donc de 15% de la marge de profit des cliniques privées. Ça, la pilule passe mal.
Exact. Et puis même, Gaétan Barrette, qui est un des architectes de l'augmentation scandaleuse de la rémunération des médecins spécialistes, lui-même trouve que c'est inacceptable et que c'est un cadeau de Noël de leur donner, parce que normalement, la marge de profit dans les contrats, c'est de 10%, puis là, ils ont donné 15%. Et je trouve ça paradoxal, parce que, évidemment, c'est pas problématique le fait qu'en période de pandémie et de délestage des chirurgies dans les hôpitaux, on maximise l'utilisation des cliniques privées pour essayer de répondre aux besoins. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas l'existence des contrats. Le problème, c'est que, encore une fois, il y a une surenchère pour la rémunération des médecins. C'est-à-dire que même en période de pénurie, même en période où on a besoin que tout le monde soit sur le pont pour travailler de concert, les spécialistes réussissent à se faire donner davantage d'argent que d'habitude et que le gouvernement accepte ça. Et cet événement-là ne fait que s'ajouter. Récemment aussi, on voyait que malgré l'entente qui avait été conclue l'an dernier pour essayer de trouver 400 millions de dollars d'économies dans l'enveloppe de rémunération des médecins, ils avaient pas trouvé ces 400 millions-là. Mais là encore, la pandémie a un petit peu le dos large.
Le dos large, oui.
Mais ça me ramène au fait que on est de retour donc à cette désinhibition complète des médecins québécois, les spécialistes en particulier, d'en vouloir toujours plus, et la responsabilité du premier ministre Legault qui a gaspillé un moment historique où il aurait pu recadrer la rémunération des médecins et qui a décidé de ne pas le faire. Et puis là, je t'explique un petit peu, il faut revenir en arrière. Je veux dire, les médecins ont toujours réussi à gagner toute leur bataille avec les gouvernements. On se souvient, sous M. Bourassa, Marc-Yvan Boutier, ministre de la Santé, avait tenté une réforme. Les médecins s'étaient mobilisés, ça avait été non. François Legault, quand il avait été ministre de la Santé sous Lucien Bouchard, avait eu le même problème. Il avait dû reculer. Mais pour la première, parce que l'opinion publique était très favorable aux médecins, peu importe les conditions salariales dont on discutait. Mais petit à petit, avec toutes ces histoires de primes complètement ridicules, la prime à la jaquette, la prime pour arriver à l'heure, la prime pour inscrire des patients même si on les voyait pas, l'opinion publique s'est renversée contre les médecins. L'augmentation, évidemment, de leur rémunération de plus de 40% en quelques années, alors que le réseau de la santé était en difficulté, a contribué à ça. Et donc, lors de l'élection de 2018, en fait, M. Legault s'engageait à retirer 1 milliard de dollars par année à la rémunération des médecins qui avait été négociée par les libéraux. Nous, on s'engageait à aller plus loin, c'est-à-dire à geler pour un très grand nombre d'années leur rémunération, donc à annuler les augmentations qui avaient été promises. QS était à peu près dans le même état d'esprit, et les libéraux avaient tellement honte de ce qu'ils avaient fait qu'ils promettaient que s'ils étaient réélus, Gaétan Barrette ne serait pas ministre de la Santé. Alors, imaginez, hein? Donc, il y avait une possibilité d'action pour la première fois en plusieurs décennies, et même au sein des médecins, il y avait 1000 médecins et étudiants en médecine qui avaient signé une pétition en disant « on les veut pas, ces augmentations-là ». Alors, il y avait même la faiblesse à l'intérieur de leur rapport de force. Et là, M. Legault, donc, qui avait cette capacité historique de recadrer les choses,
a laissé tomber.
Il ne l'a pas fait. Et c'est extrêmement dommage. D'ailleurs, au moment où l'entente a été réalisée, Mme Diane Francoeur, la présidente de la Fédération des spécialistes, a dit « C'est le plus beau jour de mon mandat. » Ben, c'est pas mal sûr que tu as gagné si c'est le plus beau jour de ton mandat. M. Legault essayait de dire qu'il avait atteint son objectif, ce qui était un grand mensonge. Et là, donc, les médecins, ils ont eu peur. Après l'élection de 2018, ils pensaient qu'ils allaient devoir faire un compromis très important. Ils n'ont pas eu à le faire. Et là, on est de retour à la situation antérieure. Et moi, je trouve que c'est scandaleux que M. Legault ait gaspillé le rapport de force qui avait été créé et qui a fait en sorte là, de redonner la peau aux médecins. Et on voit que ça continue avec leur donner 15% dans les cliniques privées plutôt que 10% qui était la norme. Puis on pouvait même trouver que 10% c'était trop élevé. Il ne devrait pas y avoir de profit dans ces milieux-là. Et je ne sais pas si tu te souviens, ben pendant des années, on a dit, ben en plus de tout le reste, la cerise sur le sundae, c'est que les médecins ont pu s'incorporer. Donc, ça coûte quelques centaines de millions de plus. Enfin, ça leur donne quelques centaines de millions de plus le fait qu'ils soient incorporés, alors que ils ont, en fait, ce sont des sous-contractants de l'État et ils ont un marché captif. Donc, ils sont pas du tout en train de se compétitionner pour essayer d'avoir la clientèle. Et M. Legault, comme les autres partis d'opposition, avait dit on va abolir ça. Et là, on ne le voit pas. Ce n'est pas en train d'être fait. Donc c'est un renversement de situation que moi, je blâme beaucoup M. Legault. On comprend que pendant la pandémie, c'était pas le temps de le faire, mais avant la pandémie, quand c'était le moment, il ne l'a pas fait.
Il ne l'a pas fait. Donc, tu soulèves toutes sortes de points extrêmement importants et on revient quand même à cette affaire-là du 15%. Je trouve que tout le monde, dans ces cas-là, dans les partis d'opposition, pose quand même de très bonnes questions. Quand on a, par exemple, les gens de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, qui disent, écoutez, du côté des travailleurs dans le secteur public, est-ce que on peut dire que eux ont fait 15% d'augmentation ou 15% de marge de bénéfice pendant la pandémie? Non. Je veux dire, les gens qui travaillent sur le terrain l'ont fait au péril de leur vie. Il y a eu beaucoup qui sont morts, beaucoup qui ont été infectés. Donc, il y a une certaine indécence quand même quand on regarde ces chiffres-là.
Tout à fait, une indécence. Et on n'était pas dans la pièce lorsque la négociation a eu lieu. Mais est-ce que du côté de M. Dubé ou du côté des propriétaires de ces cliniques-là, a dit, ben écoutez, il y a un effort national qui est demandé en ce moment, on va pas surcharger pendant la pandémie. S'il y a un moment où on va pas surcharger, c'est pendant la pandémie. Est-ce que cette conversation-là a eu lieu? Est-ce que le bien commun, est-ce que le service public, de toute évidence, ne fait plus partie de la conversation? Ce qui arrive, le premier, c'est le profit. Et moi, pendant quelques années, quand j'étais dans l'opposition, j'étais avec Diane Lamarre dans toutes les commissions parlementaires sur la santé, et j'étais scandalisé par cette course, cette avidité du gain, et j'avais dans une commission parlementaire un prof de l'Université de Montréal en médecine, puis qui était assez âgé, puis je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux vous poser une question? Vos étudiants là, qui sont en médecine, est-ce qu'ils parlent de leur salaire ou est-ce qu'ils parlent de soigner les gens? Puis il dit, ben, je suis content d'avoir la question parce que ils parlent de soigner les gens. Quand ils arrivent en médecine, ils veulent soigner les gens. Ils sont au courant du salaire qu'ils vont avoir. Puis ils savent que c'est un bon salaire, mais c'est pas une préoccupation. Et lorsqu'ils entrent dans la profession, la corporation des médecins, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, distille un genre de culture maximaliste qui les corrompt finalement dans ce sens-là. Je dis pas que c'est pas des bons médecins, ils font un travail très fort puis tout ça, mais ça devient une préoccupation qui n'était pas leur vocation. Alors, le syndicat
très intéressant. Lui-même
fait en sorte de transformer nos médecins qui sont des bons docteurs Welby en Séraphin Poudrier à mesure qu'il progresse dans la carrière.
Mais ça peut paraître réducteur, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire et le parallèle que tu fais. Je pense que en effet, depuis un an, s'il y a une chose qu'on a compris de cette pandémie, c'est que on ne s'en sortira pas si on le fait pas ensemble. Donc il y a cette notion que tu viens d'évoquer, qui est une notion de bien public, où les intérêts supérieurs de la nation passent avant notre petit nombril, notre petit moi, et surtout cette fameuse notion de j'ai le droit. Donc c'est sûr qu'il y a sûrement des gens dans les cliniques privées qui disent « ben j'ai le droit à cette marge de profit, j'ai le droit à ce que ce soit 15 au lieu de 10 %. » Mais nous, comme citoyens payeurs, on a le droit aussi de poser la question « Est-ce que vous avez vraiment pensé au bien public ou vous avez pensé juste à votre bien personnel ?» Je trouve que ce sont des questions philosophiques qu'on devrait se poser plus souvent. Et je suis très contente que tu le fasses de cette façon-là.
Ben, je te remercie de me donner l'occasion de le faire. Alors, regarde, je vais quand même dire, on s'était parlé entre nous récemment et avec les auditeurs, des salaires exorbitants dans la fonction publique, c'est-à-dire des dirigeants d'Investissement Québec et tout ça. Et là, pour la première fois, dans l'entente qui a été annoncée avant-hier sur Air Canada, le gouvernement fédéral a dit, écoutez, on va vous injecter par prêt et par investissement 4,5 milliards sur 7 ans, mais en échange, le PDG d'Air Canada pourra pas faire plus qu'$1 million par année. Et franchement, les bras m'en tombent parce que, bon, ça veut dire que le PDG précédent, il a gagné 6 millions par année, puis c'était une mauvaise année. Il était censé en gagner 12, il en a gagné juste 6. Mais là, pendant plusieurs années, ça va être seulement 1 million.
Pour
lui. Je dis bravo. C'est la première fois. Même Obama n'avait pas osé faire ça lorsqu'il avait sauvé les banques américaines.
Oui,
et là, le gouvernement canadien, puis c'est Michael Sabia qui a fait la négociation, c'est le sous-ministre des Finances, a dit, écoutez, dans le contexte actuel, on va vous obliger à gagner juste 1 million par année jusqu'à ce que le remboursement soit fait. Je les applaudis. Je suis pas un fan du gouvernement Trudeau, mais là, vraiment, je les applaudis. C'est un excellent signal. C'est un bon précédent qui est fait pour la suite. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est le bien commun. Écoutez, l'argent des Canadiens va être utilisé pour sauver votre entreprise. Il est important de la sauver pour l'industrie, parce que on s'en sert, là, c'est pas un colis fichet, c'est essentiel à l'économie canadienne. On va faire la même chose avec Air Transat et avec WestJet. Mais puisque le bien commun est en jeu, vous allez pas mettre cet argent-là dans vos poches, puis en fait, vous allez contribuer à l'effort en réduisant votre salaire. Moi, je dis bravo.
Bon, ben écoute, on peut l'inscrire au calendrier, 14 avril 2021. Jean-François Lisée dit bravo au gouvernement Trudeau. Merci beaucoup, Jean-François. Très hâte de te réentendre vendredi sur les ondes de Cube Radio. Merci, Jean-François.
À vendredi.
Eh ben voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. Merci aussi à William Boivin à la recherche. Ben écoutez, qu'est-ce que je retiens de cette émission? Des policiers désarmés devant des jeunes de 14-15 ans qui, eux, sont armés jusqu'aux dents? Penserait pas. On se laissera là-dessus. On se reparle demain.